Je suis d'un autre pays que le vôtre, d'un autre quartier, d'une autre solitude. Je m'invente aujourd'hui des chemins de traverse. Je ne suis plus de chez vous. J'attends des mutants.
Bienvenue à vous, si vous nous rejoignez sur le 99.9, vous êtes dans Décibel. No go, Et un décibel particulier, comme tous les jeudis, puisque on se retrouve avec les étudiants de l'université d'Artois qui vont animer cette émission. Bonjour à toutes et à tous, on est en compagnie de Carla.
Hello.
On est en compagnie également d'Alex.
Bonjour.
Dimitri.
Bonjour.
Ouh là là, tu parles très fort, Dimitri. Et Clément et David.
Salut, bonjour. Salut.
Donc, eh bien, aujourd'hui, vous allez évoquer le grand thème du bonheur. Ah, le bonheur. Donc, eh bien, on va commencer tout de suite avec Carla qui, elle, va nous parler du bonheur, mais dans le théâtre.
Ouais. Ouais, donc je vais commencer par ce qui fait le plus mal, pour finir un peu plus en douceur, car tout ce sujet aussi vaste a son lot de philosophie. Aïe aïe aïe, me direz-vous, mais après de longues lectures, j'ai concentré le tout en une phrase qui semblerait expliquer ce qu'est le bonheur. Alors accrochez-vous, ce sera court mais intense. Le bonheur est un état durable de plénitude et de satisfaction, état agréable et équilibré de l'esprit et du corps, d'où la souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Bon, en gros, le bonheur, c'est plutôt positif. Mais c'est une notion des plus difficiles à déterminer. Alors, après nous partons dans différents types philosophiques, mais celui le plus courant et le mieux compris est sans doute l'épicurisme, c'est-à-dire... En gros, que la suppression de la souffrance suffirait au bonheur. Ceci me fait poser beaucoup de questions, dont une qui me trotte plus particulièrement dans la tête. Existe-t-il des critères au bonheur ? Alors, au lieu d'épiloguer sur les multitudes de versions existantes en philosophie, j'ai décidé d'aller rechercher dans mon domaine, c'est-à-dire le théâtre. Alors j'ai zioté ma bibliothèque et j'en ai sorti deux excellentes pièces totalement différentes qui donnent deux aspects du bonheur, ou plutôt de la recherche du bonheur. Alors je les ai là, hein, pour ceux qui veulent voir. La première pièce, c'est Cendrillon de Pommerat, qui est une adaptation du conte. Sauf qu'ici, Pommerat se base sur la mort de la vraie mère de Cendrillon et sur l'enfermement de celle-ci dans une sorte de demi-rêve dans lequel elle se crée une autodestruction qui pour elle semble être son bonheur. Car elle ne veut pas oublier sa mère.
C'est important.
Très important. Par exemple, elle dit des phrases très fortes, comme lors d'une distribution de tâches ménagères. Très bien, ça c'est bien, je vais aimer faire ça, ramasser les cadavres d'oiseaux. Ça va me faire du bien de ramasser des oiseaux morts avec mes mains. Ou alors encore plus loin, oui, ça aussi, je crois que je vais aimer ça, retirer les cheveux des lavabos, c'est dégueulasse, ça va me faire du bien. Voilà, hein, une adaptation très originale du conte. Par la suite, elle va rencontrer des personnages qui vont lui expliquer que là, il n'est pas question de bonheur pour elle, etc., etc. Ma seconde pièce est tout à fait différente. Il s'agit d'Everest, de Stéphane Gioberti, qui fait partie du théâtre de jeunesse, qui est parfois oublié, bien que très important. Et oui, comment aborder ces sujets avec les enfants ? Eh bien, Stéphane le fait très bien en parlant notamment de la mort, de la tumeur, etc., que de sujets gays. Mais dans Everest, il s'agit de la recherche du bonheur, entre autres, puisqu'on peut en effet en sortir beaucoup de morale. Alors ici, trois personnages, papa, maman et le petit garçon, qui est notre narrateur, mais également le personnage principal. Le père, suite à une histoire surréaliste, s'enferme dans la lecture et y trouve son bonheur, celui de voyager dans la lecture, justement. Ce qui est intéressant, c'est que la mère trouve ça ridicule, mais l'enfant, intelligemment, comprend immédiatement le besoin de son père et dit même à sa mère « Il est heureux, maman ». Alors, avec ces deux pièces, je voulais souligner des côtés du bonheur qui ne sont pas flagrants, puisque ce sont des visions parmi tant d'autres, mais ce sujet est tellement vaste que l'on pourrait en trouver autant qu'il y a de personnes sur cette terre. Et oui, à chaque homme son bonheur, n'est-ce pas ?
Eh bien, merci Carla pour cette vision théâtralisée du bonheur. On enchaîne avec David qui, lui, va nous proposer l'art d'être attentif dans le bonheur ou le bonheur de l'art d'être attentif.
C'est ça, le fait de savourer pleinement l'instant présent, en pleine conscience. En effet, puisque notre bonheur est nourri par la qualité de l'attention que nous portons à ce que nous faisons. Déjà à l'époque, les sages stoïciens et épicuriens de l'Antiquité avaient souligné ce point capital et affirmé que l'instant nous faisait toucher à l'éternité. La félicité ne se goûte que dans l'instant présent. C'est beau, hein. Les études scientifiques les plus récentes confirment ce fait depuis longtemps mis en avant par de nombreux philosophes et psychologues. Grâce à l'imagerie cérébrale, les chercheurs en neurosciences ont pu établir que les zones du cerveau activées lorsque nous nous concentrons sur une seule expérience sont différentes de celles activées lorsque notre esprit vagabonde ou rumine diverses pensées. L'observation clinique a également révélé que les sujets souffrant de troubles nerveux ou dépressifs fonctionnaient le plus souvent sur le mode de la rumination, à l'inverse des personnes affichant un notable bien-être subjectif, qui passent davantage d'une activité à une autre en étant attentives à ce qu'elles font. Il y a donc un lien qui peut être établi, entre attention, concentration et bien-être, et entre rumination, vagabondage et mal-être, tout en identifiant l'ancrage cérébral de ces états d'âme. Donc diverses thérapies ont été proposées avec des résultats très probants aux patients atteints de troubles dépressifs en leur apprenant à vivre dans l'attention au moment présent. Parmi ces thérapies, on trouve notamment la pratique de la méditation dite de pleine conscience, élaborée par le célèbre psychiatre américain Jon Kabat-Zinn, il y a une vingtaine d'années, en s'inspirant des fondements de la méditation bouddhiste, dont le psychiatre Christophe André est en France l'un des principaux promoteurs. Cette expérience de la méditation silencieuse, elle permet de fixer l'attention sans la crisper, d'apaiser le mental, de calmer la ronde incessante des pensées, de se ressourcer intérieurement. Compte tenu de l'interaction entre corps et esprit, cet apaisement rejaillit à la fois sur l'organisme et sur les émotions. Des études spécifiques ont d'ailleurs été menées sur des méditants entraînés, tels le français Mathieu Ricard, qui médite plusieurs heures par jour depuis bientôt 40 ans. Et ces études ont révélé que ces pratiquants sont le siège d'une réaction cérébrale spécifique. En effet, leurs ondes gamma sont beaucoup plus intenses que celles des autres sujets. On observe chez eux une meilleure synchronisation de l'ensemble de l'activité électrique du cerveau, ainsi qu'une augmentation de la neuroplasticité, de la propension, c'est-à-dire la propension des neurones à établir davantage de connexions. Donc si cette pratique peut aider à vivre en pleine conscience, chaque expérience du quotidien peut aussi, bien entendu, être source de bien-être et produire des effets similaires. Il suffit pour cela d'être attentif à ce que l'on fait dans le moment présent. En effet, nous constatons que, bien souvent, nous ne vivons pas dans le présent, mais laissons nos pensées voguer vers le passé ou le futur. Nous accomplissons plusieurs tâches en même temps, nous ressassons divers soucis pendant que nous travaillons. Suractive, la vie moderne ne fait qu'accentuer ces tendances, d'où l'accroissement exponentiel du stress, de la fatigue chronique, de la dépression et de l'angoisse dans nos sociétés. Alors qu'une meilleure attention à ce que l'on fait, à ses sensations, à des perceptions, au déroulé de son action, peut changer une vie.
Ah ben, un aspect scientifique...
Wow. Je vous laisse méditer.
C'est technique tout ça.
Oui, c'est assez technique.
Je vais méditer environ 40 ans et je reviens vous dire quoi.
Mais, ouais, est-ce qu'ils vivent plus longtemps les gens qui méditent tous les jours pendant 40 ans?
Je peux vous conseiller un très bon livre par rapport à la méditation.
Ah oui, tout à fait.
Ça s'appelle « Méditer jour après jour » de Christophe André.
Ok.
Aux éditions L'Iconoclaste.
Ça marche.
Tu aimes ça toi la méditation?
Oui, j'essaie de temps en temps, mais c'est très difficile.
Ouais, j'imagine, ouais.
Est-ce que tu te sens en harmonie avec toi-même?
Tu te sens mieux quand tu médites.
C'est vrai?
Mais c'est très difficile.
Faut déjà réussir à être zen.
Tu sais, en cours.
Ouais, mais là, en même temps, je pense que ça sera pas possible pour la prof. Ni le prof. Ok, allez, petite pause musicale dans le bonheur, toujours, avec un titre que nous propose Carla.
Ouais, j'y aiderai, donc avec le sourire, pour parler du bonheur.
Et puis ben après on enchaînera avec Clément qui nous proposera un petit jeu.
Eh oui.
Hey. Il faut regarder la vie avec le sourire, sinon on a envie de mourir, à moins que t'aies envie de te suicider. Il faut l'avoir du bon côté. Si t'es en chimio, que tu ne le vis pas bien, pense à tout ce que tu vas économiser en shampoing. Si tu trouves ça trop chiant d'être en fauteuil roulant, rappelle-toi toujours que marcher c'est fatigant. Si t'as de la peine pour les clodos dans ta cage d'escalier, dis-toi qu'au moins ne se ruine pas en loyer. Si le trafic d'enfants, tu trouves ça trop cruel, dis-toi toi que pour beaucoup, c'est leur seule chance de voir la tour Eiffel. Non, 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 ne croyez pas que le monde ne soit qu'un gros caca. Regardez dessus, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Si tu maudis la vie à cause de ta cécité, au moins grâce à elle tu ne verras jamais Julia Courbet. Et si tu es sourd, bah là c'est un peu con, parce que tu ne peux pas entendre ma chanson. Si tu n'as plus de quoi t'acheter à manger, tu vas maigrir, tu vas être bonne, tu vas choper. Si depuis que ta famille est morte, tu es un peu amère, pense à tous les cadeaux de Noël que tu n'auras plus à faire. Non, 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 ne croyez pas que le monde ne soit qu'un gros caca. Regardez dessus, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Non, 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 ne croyez pas que le monde ne soit qu'un gros caca. Regardez dessus, on a planté des fleurs, c'est ce qu'on appelle le bonheur.
Avec le sourire donc de Gédré, très très bon titre. Je connaissais pas ce titre, franchement. Si c'est ça sa définition du bonheur, c'est d'écouter sa chanson, ça marche.
Ouais, j'écoute ça le matin, t'inquiète pas.
Ah
ça
bah
marche
ouais,
bien.
Je me doute que ça doit être bête de bonheur.
On rit jaune.
Ah oui, quand même. Ouais, ça me fait penser aussi à un autre groupe qui est complètement à la ramasse de ce côté musical, puisque c'est plus électronique, qui s'appelle Infecticide. Ça vous parle?
Non. Non,
mourir, c'est nul, c'est pas mal non plus. Donc voilà.
Mais il y a eu des moqueries de ma chanson là.
Dans une autre émission, on reparlera de Gédré parce que je trouve qu'elle est quand même assez.
Il y a des comptes à rendre là.
Intéressante. Clément, donc toi, tu nous proposes, tu vas essayer de nous convaincre de dans quel pays on est le plus heureux.
Et ouais, parce qu'on parle de bonheur, on parle de philosophie, de comment être heureux. Mais la question, c'est bien dans quel pays on vit le plus heureux. Alors, un classement a été fait à l'issue d'une étude universitaire sérieuse d'un Anglais, Adrian White, qui a établi une carte mondiale du bonheur d'après 5 critères. Alors, il y a la santé, la richesse, l'éducation, l'identité nationale et la beauté des paysages. Et quand on regarde ce classement, on y trouve de belles surprises. Donc, je vais vous proposer un truc. On va faire un jeu, genre un question pour un champion à PFM.
Allez, on gagne quoi ?
Je vous décris un prix, je vous décris un pays et vous devinez. Donc, vous êtes prêts ?
Ouais. On est prêts, allez hop.
Vas-y.
Alors, je suis le plus petit des pays scandinaves et depuis 1949, une monarchie constitutionnelle.
La Suède.
Deux régions autonomes me sont rattachées, le Groenland et les îles Féroé. Je suis.
La Suède.
Le Royaume du Danemark.
Le Royaume du Danemark.
Bravo.
Le Royaume du Danemark est premier avec une espérance de vie de 80 ans, un produit national brut de 27 000 euros par habitant et un taux de chômage qui ne dépasse pas 5%. Non. Et oui, ça fait rêver. A noter qu'ils ont un taux d'alphabétisation le plus fort en Europe qui est de 100%.
Oula.
Le modèle danois, les amis.
Et en plus, ils ont de très bons dessinateurs de presse.
Oui. On continue. Alors, je suis au centre de la Confédération helvétique. Je suis peuplé de 20% d'étrangers et j'ai souvent été un pays d'immigration. Je possède d'ailleurs 4 langues nationales, le français, l'italien, l'almatique et le romanche. Je suis la Suisse.
Oh, je sais,
qui se met deuxième au classement, avec une espérance aussi de 80 ans de moyenne pour les hommes et les femmes.
C'est pas beaucoup.
Chacun des langues nationales, c'est une frontière avec un pays. Ouais. Et eux aussi ont un produit national brut très élevé qui est de 25 000 euros et un taux de chômage encore plus bas de 3%, ce qui est énorme. Et selon une étude publiée en 2006 par un cabinet de conseil...
C'est ce que j'étais en train de me dire,
Oui, mais ce qui est énorme dans un sens où c'est fortement
figuré,
difficile.
Ouais.
Et selon une étude, Genève a été la ville où la qualité de vie est la meilleure. Ouais. Et la ville d'ailleurs où la qualité est la meilleure. Ouais. Et ils ont aussi un taux d'alphabétisation de 100%, ce qui est assez remarquable.
Et ils ont de très bonnes banques. Ce qui n'est pas négligeable.
On va continuer un peu. Alors, le troisième, successivement occupé par l'Allemagne, puis par des troupes alliées, j'ai dû attendre le départ de ces derniers en mai 1955 pour signer mon traité d'État qui assure ma neutralité. occupé aux deux tiers par les Alpes et traversé par le Danube, mon fleuve le plus long. Je suis...
L'Autriche.
L'Autriche, avec comme capitale Vienne.
Bon, j'avais triché.
Eux aussi, ils ont une espérance de vie de 78 ans de moyenne et une économie qui est très liée à ceux des pays européens, et en particulier son voisin, l'Allemagne. Ils arrivent quand même à être troisième, donc...
Chapeau.
On parle pas beaucoup d'eux, mais
chapeau,
ils sont heureux. Alors, on va continuer avec deux pays et après, je vous parlerai de la fin du classement. Alors, sous protection de l'OTAN qui assure ma défense, je ne suis le seul pays à ne pas posséder d'armée. Je suis membre de l'Association européenne de libre-échange, mais je refuse de rentrer dans l'Union européenne par peur de perdre le contrôle sur la politique de pêche. J'ai la chance d'avoir le plus grand glacier d'Europe dans mon pays. Je vous épargne le nom qui est très difficile, et 10% de mon île est d'ailleurs recouverte de glace. Je suis...
L'Islande.
Ouais. Au pays des forges, l'espérance de vie est de 80 ans. L'économie islandaise est l'une des plus prospères du monde. En 2005, le PNB par habitant était de 27 000 euros, avec un chômage, tenez-vous bien, de 2%. La totalité des enfants islandais... suivent un enseignement dans le secondaire et 99% de la population sait lire et écrire, voilà, ce qui reste aussi remarquable. On va finir par un pays qui est beaucoup plus dur, mais qui se classe 5e et c'est assez remarquable pour eux. Je contiens 700 îles qui sont dissimulées dans les Caraïbes, 8000 km² de terres émergées dans l'eau. Je suis le paradis de tous les plongeurs du monde. C'est sur une de mes îles que Christophe Colomb aurait mis son premier pas. Je fus un repère de pirates et conquis par le Royaume-Uni au XVIIe siècle. Depuis 1973, je suis indépendant. Qui suis-je ?
Ah, 73.
Le Royaume-Uni.
C'est dans les Caraïbes, 700 îles.
Le Royaume-Uni dans les Caraïbes ?
Les Bahamas, bien joué.
Oh là là.
Ils sont là, à la 5e place, et avec une espérance de vie qui descend 73%. 73 ans plutôt, d'espérance de vie. Mais
Bahamas.
Ils sont surtout là pour leur banque Oshford, parce que c'est
offshore. Ouais.
Offshore,
ouais.
Ouais, c'est...
Et
c'est peut-être aussi un petit peu comme la Suisse.
Oui, un peu. Il y a 80% des touristes sont américains. Et... Bon, après, c'est sûr que 95% des élèves atteignent l'enseignement, mais 95% des Bahamiens savent lire et écrire.
Des Bahamiens.
Ouais. Donc, je vais vous parler aussi de la fin du classement, parce que c'est assez intéressant. On y retrouve la Finlande.
Ce qui est le plus dépressif.
C'est vrai que.
Ben non, mais apparemment, ils se disent les plus heureux.
Ouais, mais c'est sympa.
La Finlande, la Suède qui se place 7e. Ouais. Puis il y a les deux derniers pays, à part le Canada qui est 10e, mais le 8e et le 9e qui sont assez particuliers, on n'entend jamais parler. Le Bhoutan.
Ah ouais.
Qui est situé à l'est de la chaîne de l'Himalaya, enclavé entre l'Inde du Sud et la Chine du Nord. Ils sont 8e. Parce que c'est un peu paradoxal, mais. Là-bas, c'est un roi, et il instaure en 1972 le bonheur national brut, le BNP. Son objectif était de bâtir une économie basée sur les valeurs spirituelles du bouddhiste. Donc, ce BNP aurait permis en 15 ans d'augmenter l'espérance de vie de 19 ans. C'est assez, c'est assez incroyable. Et pareil, le Brunei Darussalam. C'est une île c'est un état enclavé en Malaisie. Et en ancien protectorat anglais, le Brunei a obtenu son indépendance en 84. Et voilà, bon, c'est une petite monarchie islamique, membre du Commonwealth. Mais ils sont 9e et apparemment, ils sont très heureux.
Ouais, bah justement, ils sont peut-être heureux parce qu'on n'en parle pas.
Et ça, ouais, c'est voilà, hein, pour vivre heureux, vivons cachés.
Ouais, et exactement,
voilà,
tu me l'as retiré
tout
de la
à fait.
Petite note, la France ne fait malheureusement pas partie de ce classement.
Mais, oh, c'est étonnant.
Est-ce qu'on a la place de la France
mais
quand
dans,
même
ouais, dans une autre étude avec des critères semblables publiée en 2014, la France, tenez-vous bien, figure à la 51e place des pays les plus heureux.
Oh là là,
rien, ça fait mal. Rien de très encourageant.
Ouais, bah ouais.
Ça, c'est vrai.
Et aucun pays de l'Occident, ou à part les pays scandinaves, et après on se dit les meilleurs. Peut-être les meilleurs, mais pas les plus heureux en tout cas.
On dit souvent donneur de leçons, ben voilà.
Voilà, hein.
Ça fait bien d'en prendre.
On vit pas heureux.
Dimitri,
oui,
alors, donc toi tu vas nous proposer l'économie et le bonheur.
Pour changer.
10 conseils par des économistes, hein, c'est ça ?
Par un seul économiste, d'ailleurs, un économiste suisse.
Je
donc,
vais me mettre yoga.
Puisque c'est un économiste suisse et que la Suisse est le troisième pays le plus heureux, ben on peut peut-être l'écouter. Même si c'est pas un économiste comme les autres, puisqu'il s'est intéressé beaucoup à la psychologie et, excusez-moi, et à la sociologie. Donc je vais vous donner 10 conseils et je vais vous demander de réagir dès que vous en avez envie sur l'un de ces conseils. Et comme ça, vous me direz si vous pensez vous aussi qu'en faisant cela, on sera heureux. Alors pour... pour sa part, ce ne sont pas des conseils vraiment pour être heureux, mais pour éviter d'être malheureux dans notre société.
Ah ouais, c'est pas la même chose. C'est un piège en fait.
Autant ne pas être malheureux. Hein.
Ouais, c'est pour éviter d'être malheureux dans notre société de consommation. Alors, son premier conseil, c'est ne vous préoccupez pas de ne pas être un génie, car les génies ne sont pas plus heureux que les autres. Alors, il argumente cela en disant que en moyenne, on a tendance à se comparer à ceux qui ont plus que nous, au lieu de se comparer à ceux qui ont moins que nous. Et on serait plus heureux en se comparant à ceux qui ont moins que nous. Il prend un exemple très simple. Il prend l'exemple des médaillés d'argent, qui ont tendance à se comparer aux médaillés d'or, alors que les médaillés de bronze, eux, se comparent aux médaillés, enfin, à ceux qui n'ont pas de médaille du tout. Et donc, ils sont plus heureux. Et c'est son conseil.
Notre cher président doit se baser sur cette...
peut-être.
Ouais. Deuxième conseil. Gagner de l'argent, mais sans en faire une maladie. Alors, il explique qu'une augmentation de salaire, ça rend heureux, mais seulement pendant quelques mois.
Ouais, parce qu'après, on veut plus.
Ouais. Après, on veut encore plus.
Et voilà. Ouais. On veut toujours plus. Il dit 40% du plaisir s'est évaporé au bout d'une année. Donc, il faut pas chercher à toujours vouloir gagner plus. Il faut essayer de se restreindre et de vouloir gagner sa vie, mais ne pas chercher à gagner beaucoup, beaucoup.
Facile à dire.
Ouais.
Alors, troisième conseil, vieillissez avec grâce.
Alors, restez élégant
comme Madonna.
Alors justement, c'est l'inverse.
La chirurgie.
C'est un jeu de mots. En fait, il explique qu'il faut bien vieillir. Il faut reconnaître qu'on vieillit et qu'on est de moins en moins beau, mais qu'on est meilleur sur certains domaines, qu'on est peut-être de plus en plus intelligent,
et plus sage
et qu'on a plus de connaissances. Et il prend l'exemple de Beethoven qui, juste avant de mourir, a réussi à faire la plus belle de ses œuvres.
Mmh. Mais voilà. Il avait quel âge quand il est mort, Beethoven?
Alors là...
15 ans. C'était pas un chien, excusez-moi.
Bon, moi, je pensais que quand on vieillissait, on devenait con, hein, mais apparemment...
Pas toujours.
Il y a une très belle citation qui dit « Il ne faut pas s'attacher désespérément au printemps, mais s'intéresser à l'alternance des saisons. »
Maître David.
Maître David parlait...
C'était très joli.
Merci.
Alors... quatrième conseil, ne vous comparez pas aux autres en matière de beauté. Alors il explique que les normes sont irréalistes et que les pressions que les top modèles exercent sur votre psyché créent une frustration inutile.
Donc, ça je suis d'accord.
Ouais, là, je suis d'accord aussi.
Totalement d'accord.
Bah oui, hein. Surtout à l'ère de Photoshop.
et autres logiciels.
Oui. Ouais. Cinquième citation, croyez en quelque chose. Alors... que ce soit Dieu, la justice sociale, la beauté de la nature, il faut un meaning of life pour être heureux et échapper à soi-même. Donc voilà. Pour lui, il faut vraiment croire en quelque chose pour être heureux.
Je suis pas vraiment d'accord, mais bon.
Non.
en tout cas, surtout pour des questions religieuses, je pense pas que c'est absolument nécessaire de croire en une religion ou en quelque chose
aussi,
pour être heureux.
J'ai aussi lu qu'en allant à la messe, ça aide à être heureux. Même en n'étant pas croyant.
On n'est pas obligé de croire à un supérieur, on peut très bien croire en soi-même, c'est déjà beaucoup.
Oui. Alors là, si on croit en soi, là d'accord. Là,
oui, c'est déjà dur à acquérir, alors on va déjà croire en soi.
Croyant en Alexandre.
Alors,
sixièmement, parce que c'est plutôt des commandements en fait, on dirait.
Mais c'est ça.
Aider les autres. Alors l'altruisme vous détourne de vous-même et cela fait du bien pour les mêmes raisons.
Un peu le mythe communautarisme.
Moi je suis totalement d'accord avec ce principe. Hein. Je pense que
on
va mal, la meilleure chose à faire c'est d'aller aider les autres pour se rendre compte qu'on n'a pas que nos petits problèmes à nous et qu'il y a des problèmes. Donc
exactement.
Je suis totalement d'accord. Septième commandement, contrôlez vos envies. Les aspirations nouvelles débordent toujours les réalisations, aussi élevées soient ces dernières. Donc ça, c'est clairement la société de consommation. Hein. On a envie, on a des besoins, et on ne pourra pas tous les assouvir, donc il faut se contrôler. Voilà.
Pardon.
Alors, le huitième point, préservez vos amis. Ce sont les biens les plus chers, et même s'ils sont les moins visibles, il faut les garder, car vous n'aurez rien de mieux.
Entièrement d'accord.
On dévoilera pas ta pensée, Carla. Mais je pense l'avoir deviné.
Alors, Carla est pliée de rire. On se demande un peu pourquoi. Mais...
Ah, mais non.
Alors, le temps défile.
Il fait
donc,
chaud ici,
d'accord,
c'est pas possible.
Bon. Il en reste plus que deux. Alors, neuvièmement, vivez en couple ou en colocation, car la solitude n'est pas bonne.
Ah, merde.
Bon, je pense qu'on...
on le savait pas.
Dixièmement, acceptez ce que vous êtes. Gérez rationnellement vos faiblesses. Si vous procrastinez, comprenez-le et fixez-vous des règles. Alors, bah, ce qui est marrant dans tous ces commandements, c'est que c'est un petit peu ce qu'on fait exactement pas, puisque on a tendance à se comparer à tout le monde, à regarder toujours notre voisin pour voir s'il a mieux que nous, et c'est justement pour ça que peut-être dans notre société, on est un peu tous malheureux et qu'il y a beaucoup de dépressifs, je pense.
Ouais, une remarque sur la dernière, vivre seul,
vivre en colocation.
Un ficus, ça marche?
Je veux rien dire, mais il y a des gens qui sont très bien seuls, d'accord. Arrêtez de nous
juger.
Un
dog allemand, ça.
Ouais, bon, des plantes vertes, c'est bien.
Ouais. Oui, j'ai des plantes chez moi, c'est très sympa.
Et fausse, c'est encore mieux.
C'est une bonne compagnie.
Sinon, un dernier conseil, écoutez la radio, surtout PFM.
Ah bah,
c'est
moins
seul. Oh, c'est beau, ça. Oh là là.
Ça rend heureux.
Ouais. Lèche-botte. allez, on enchaîne avec cette fois-ci Alexandre qui, bah lui, l'argent.
Alors j'ai décidé de vous parler du lien entre l'argent et le bonheur, c'est une question récurrente. On a l'habitude de se la poser et elle pourrait même faire l'objet d'un sujet de bac philo. L'argent fait-il le bonheur? Je pense qu'on sera assez divisé hein, autour de cette table et si on a le temps on lancera le débat. Mais avant je voudrais vous parler d'un économiste américain, Richard Easterlin, qui est l'un des premiers à avoir étudié le rapport entre le bonheur et l'argent. Il explique qu'à l'échelle mondiale, il semble bien que l'argent fasse le bonheur, dans un premier temps. Les Luxembourgeois, par exemple, sont plus riches et se disent plus heureux que les Jordaniens, qui sont plus riches et qui se disent plus heureux que les Burkinabés. Alors, c'est un exemple un peu loufoque, mais voilà. En revanche, à l'intérieur d'un même pays, il se peut que la croissance économique ne s'accompagne pas d'une augmentation du bonheur de la population. Par exemple, entre 1946 et 2000, le PIB par habitant a été multiplié par 2 aux États-Unis, alors que le bonheur n'a pas augmenté. Alors qu'est-ce qui explique cette stagnation du bonheur malgré l'enrichissement de la population? Eh bien, selon les chercheurs, il y a 2 théories. Il y a tout d'abord le tapis hédonique, c'est-à-dire que les gens s'habituent à la hausse de leur niveau de vie, et donc le bonheur supplémentaire qu'ils en retirent disparaît progressivement. En gros, plus on vous en donne, plus vous en voulez, et donc à l'arrivée, il n'y a plus de bonheur. La jalousie est le deuxième facteur, parce que l'argent influe sur le bonheur à condition d'en avoir plus que son voisin. Mais si tous les revenus augmentent à la fois, il se peut que le bonheur moyen n'augmente pas. Il existe aussi d'autres sources de bonheur, le sexe par exemple. Les économistes, les économistes qui aiment bien les comparaisons originales ont montré que faire l'amour une fois par semaine au lieu d'une fois par mois apportait autant de bonheur que voir son salaire augmenter, tenez-vous bien, de 40 000 euros.
Je suis à 2 euros de salaire alors.
C'est pas beaucoup une fois par semaine.
Ouais, non, c'est ce que j'aimerais me dire aussi, ouais.
En tout cas, ça permettrait. C'est
dans quelle tranche d'âge ?
J'ai pas la tranche d'âge. Alors après, d'un point de vue plus personnel, je ne pense pas que l'argent soit synonyme de bonheur, mais il peut fortement y contribuer. Il ne faut pas oublier que dans la pyramide de Maslow, le besoin d'accomplissement de soi, c'est-à-dire la recherche du bonheur, n'apparaît que tout en haut de la pyramide. C'est un besoin certes important, mais pas indispensable, alors qu'au contraire, pour satisfaire ses besoins physiologiques, c'est-à-dire boire, manger, dormir et assurer sa survie, il vaut obligatoirement de l'argent pour pouvoir accéder à cela. Pour prendre un exemple assez fort, en gros, si on est heureux mais sans argent, on meurt, alors que si on est riche et malheureux, on assure au minimum sa survie. Alors là, on peut peut-être lancer le débat si on a le temps. On va essayer de faire rapide.
On n'aura pas vraiment le temps. Par contre, ce que je peux vous proposer, c'est que comme maintenant vous avez tous entendu un peu ce que l'argent, un peu, voilà. Pour la semaine prochaine, il faudrait peut-être préparer vos copies et puis chacun vous ramener en quoi l'argent pour vous fait le bonheur. Voilà. Donc en quoi vous a-t-il rendu heureux à un moment donné? Ça peut pas être si compliqué.
À méditer.
Vous faites malheur.
Donc en fait, on passerait plus la prochaine émission uniquement sur cette question sur le rapport argent bonheur.
Peut-être pas uniquement sur cette question, mais on attaquera. On attaquera
une grosse partie sur ça.
J'ai bien aimé la comparaison des pays, c'était très original.
Très intéressant.
On peut en prendre d'autres, mais là, c'était les exemples qui étaient cités par Richard Easterlin.
Ok, et donc on n'a pas parlé du bonheur qui était dans le pré, hein. C'était un peu dommage. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner avant qu'on se quitte, avec un titre d'Anakil, hein, c'est David qui
c'est
propose.
Ça, Chants des Roses, qui sont en concert vendredi à Wani. Eh ben, dans le cadre du festival Les Enchanteurs.
C'est parfait, voilà. Mais il n'y a plus de place. Mais il n'y a plus de place, c'est complet.
Super.
Malheureusement.
Mince.
Donc, tant pis. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner pour le bonheur, eh bien, moi, je vous dis aimer la nature embrasser les arbres et vous verrez.
Et aller dans les magasins.
Et écouter l'hymne de nos campagnes.
Évitez les magasins et prenez une bonne dose de nature, ça rend.
Et faites l'amour une fois par semaine. Voilà.
Ou une fois par jour.
Vous faites des crêpes, c'est bien ça, les crêpes.
Voilà. Allez, sur ce, bonsoir à toutes et à tous.
Bonsoir.
Merci d'être passé pour nous parler de bonheur dans Décibel. Et puis,
à la semaine prochaine.
Avec Dana Kill.
Salut.
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 Que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde je prendrai la pause, parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, quelque part sur la route il y a bien quelque chose, repère ton étoile et décroche la si tu l'oses, on me dit. Tâchez, monsieur, de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la basse gronde à l'unisson. Qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le paillasson. Mais ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle, je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et ivre, non, je veux vivre libre. Que la musique me délivre, que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre. J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, quelque part sur la route il y a bien quelque chose, repère ton et décroche la si tu l'oses. Yeah, amigos, j'espère que vous avez fait bonne arrivée ce soir ici même. Ah ah, passez. Ne jamais se freiner à explorer des territoires, car plus on les connaît et mieux on comprendra l'histoire. Je veux de l'air, je veux de l'eau, j'ai besoin d'espace vert pour sauver ma peau. Je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer, mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés. Bien sûr on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de rose n'existe pas, pourtant l'imaginer. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, visiter les places où le destin me dépose, et devant les merveilles du monde je prendrai la pause. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose, vivre au grand air et marcher dans les champs de roses, quelque part sur la route il y a bien quelque chose, repère ton étoile et décroche la si tu l'oses. Décroche la si